Raph Chalençon.
Bonjour, comment ça va ce matin?
Ça va bien et vous?
Baruch HaShem.
Ah, eh ben écoutez, très bien. On va parler de la paracha de la semaine, la paracha Emor, qui est, on peut le dire, une paracha particulièrement touffue, chargée. On y apprend beaucoup de choses. On va commencer par le point principal. On y parle des grands prêtres, les Kohanim, et notamment des diverses prérogatives, obligations, un petit peu toutes les lois qui régissent l'office des Kohanim et leur position dans la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, donc le Kohen, le prêtre ou le grand prêtre, eh bien, fait partie d'une, plus ou moins, on va dire, une élite du peuple juif, pour différentes raisons. La première base, c'est qu'ils sont descendants de Aaron à Kohen, le premier prêtre, qui était le frère de Moïse, le frère de Moshe, et qui avait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il prenait le temps de s'occuper de chacun, pour que chacun puisse trouver sa place dans le peuple. Et ce, de différentes façons. Lorsque, par exemple, il y avait un souci dans un couple, il allait voir le mari lui dire, tu sais, j'ai parlé avec ta femme, et vraiment, elle a vraiment envie de retrouver le temps de te parler, et elle veut vraiment te pardonner, donc t'inquiète pas, vas-y. Et puis il allait voir le mari, il disait la même chose, et la femme disait la même chose. Et donc ça permettait de retrouver la paix dans le foyer, la paix entre amis, la paix dans le peuple. Et donc Hachem a dit à Aaron, puisque tu aimes tellement la paix, eh bien ta bénédiction aura quelque chose de spécial, parce que la paix, le fait de ne pas se disputer, de trouver toujours une solution pour avancer ensemble, est tellement forte, tellement quelque chose que Hachem aime, que Dieu aime, que ça va vraiment amener à ce que la bénédiction du Kohen soit sans limite. Et c'est pour cela que ça va être eux qui vont s'occuper du temple, ça va être eux qui vont s'occuper de la prière que l'on faisait pour tout le peuple, chaque jour, à chaque moment. Et pour cela, eh bien, il fallait des gens extraordinaires aussi, avec un bon cœur, avec quelqu'un qui était prêt à se sacrifier, à partager, à être présent pour les autres, quel que soit le souci. Et c'est pour cela que les Kohen, eh bien, vont mériter cela. Mais en même temps, ça amène des responsabilités.
Voilà.
Et donc, c'est pour cela qu'ils doivent toujours être purs. Doivent toujours pouvoir se marier avec une personne qui n'a jamais connu un autre homme. Qui doivent toujours être présents dans le temple, être purs, donc de ne pas aller dans un cimetière, de ne pas s'occuper de cadavres. Enfin, il y a plein
Justement, oui, il y a pas mal d'obligations ou d'interdictions. Et celle qui est relative à l'interdiction d'entrer dans un cimetière m'a toujours un petit peu intéressé. Et comment ils font, comment ça se passe lorsque un Kohen, justement, ou un membre de la famille d'un Kohen décède et doit être enterré?
Alors, lorsque c'est un Kohen normal, quand c'est pour quelqu'un de très proche, comme les parents ou autres, shalom, ils peuvent aller à l'enterrement.
D'accord.
Par contre, après, pendant 7 jours, ils ne peuvent pas aller au temple. Il faut le temps de se purifier.
Okay.
Par contre, pour le grand prêtre, le Kohen Gadol, comme lui, il doit être tout le temps au temple, lui, il ne peut même pas y aller, même pour ses parents.
D'accord.
C'est pas évident.
C'est pas évident, effectivement. Les Kohen, donc, ont une obligation qui leur impose une certaine pureté. Et ensuite, on peut avancer dans la paracha, puisqu'on énonce également, puisqu'on parle de pureté, les tares qui vont empêcher, par exemple, les bêtes, les animaux, d'être consommés, ou plutôt même d'être agréés pour un sacrifice. Et d'ailleurs, dans cette paracha, il y a quelques règles relatives aux animaux, et notamment aux nouveau-nés, aux animaux qui viennent de naître, pour lesquels on doit s'abstenir de faire certaines choses.
Oui, exact. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut amener un cadeau à Dieu, bah, il faut se rendre compte que si quelqu'un vient nous donne un truc deuxième main, on ne sera pas très content. Bah, imaginez que vous allez chez Dieu, vous lui donnez, tiens, prends cette prière parce que je suis obligé de faire et après je vais bosser. Il n'en a pas envie, c'est pas agréable. Donc quand on vient pour amener un sacrifice à Dieu, pour prendre du temps pour Dieu, on doit le faire avec plaisir, avec le sourire, on doit ressentir qu'on veut vraiment montrer notre amour pour Dieu. Donc il doit être parfait. De la même façon, on doit faire très attention aussi à la souffrance animale. C'est pour cela que, par exemple, si un enfant naît chez un animal, on ne peut pas le prendre tout de suite et l'amener en sacrifice, même pour Dieu. Parce qu'on doit le laisser d'abord profiter avec sa maman un petit peu, pendant au moins 7 jours. Et donc on apprend pas mal de choses sur la souffrance animale, autant que c'est important aussi de se rappeler que tout le but même de la création, il est pour avoir un but. Donc le
Oui.
but de l'animal, c'est de grandir, c'est de vivre, ok, mais pas seulement. D'accord? C'est aussi de pouvoir aider la population, que ce soit par sa fourrure, par sa nourriture, et aussi des fois pour être donné en sacrifice à Dieu. Et ça nous rappelle que l'humain aussi, c'est pas possible qu'il est venu sur Terre juste pour mettre au boulot dodo. C'est pas ça le but de l'humain. Donc il y a un certain moment, eh bien c'est pour aider les autres, pour
D'accord.
aider sa famille, mais aussi pour aider Dieu. Le sacrifice humain, entre guillemets, c'est pas de donner son corps à être brûlé, ça c'est interdit, mais c'est de prendre le temps de faire quelque chose de plus spirituel pour amener un petit peu plus de beauté dans le monde.
Alors justement, le rapport avec Dieu, on l'évoque et c'est assez comme une sorte de catalogue dans la section Révi de la Paracha, puisque on y évoque tour à tour quasiment le calendrier liturgique annuel, même rapidement, mais en tout cas on fait référence à Shabbat, à Pessah, aux diverses fêtes. Concernant Pessah, justement, on est dans un Shabbat particulier, Shabbat Sheni, c'est ça?
Oui, Pessah Sheni, en
Pessah
fait,
Sheni,
il faut
pardon.
savoir que quand on est sorti d'Égypte, on a dû faire le sacrifice pascal. On a mangé l'agneau sur le feu, et on appelle en hébreu le Corban Pessah. Mais un an plus tard, donc on venait de recevoir la Torah, le peuple juif a dit à Moshe, mais on voudrait remercier Dieu d'être sorti d'Égypte, donc on voudrait refaire la même chose. Moshe leur dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire, le sacrifice pascal que l'on doit faire pour la fête de Pessah. Et donc tout le monde se prépare, tout le monde est heureux de pouvoir dire merci à Dieu qu'on est sorti d'Égypte. Et là, il y a une poignée de personnes qui viennent voir Moshe et disent, mais Moshe, tu sais ce qu'on est en train de faire, non? On est en train de s'occuper du tombeau de Yosef. On ramène Yosef pour l'enterrer en Israël. Sauf que comme on est en train de s'occuper d'un cadavre, on n'est pas pur.
Ah oui.
Donc si on n'est pas pur, on peut pas aller au temple. Si on ne peut pas aller au temple, on ne peut pas dire merci à Dieu pour d'être sorti d'Égypte. Mais ce n'est pas possible. On est sorti d'Égypte il y a un an. On veut dire merci à Dieu. Comment on fait? Alors Moshe dit, c'est une bonne question, je sais pas. J'ai demandé à Dieu. Et Dieu lui dit, puisqu'ils ont demandé, on sent qu'ils veulent vraiment se rattraper. Alors tu sais quoi, dans un mois, comme ça leur donne le temps de se purifier, etc. Dans un mois, eh bien à la même date, à la place du 14 Nissan, ce sera le 14 Iyar, vous aurez la possibilité de faire Pessah Sheni, le deuxième Pessah, la possibilité de se rattraper. C'est énorme. C'est-à-dire que si quelqu'un a raté Kippour, c'est trop tard. Si quelqu'un a raté Pessah, il peut se rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé. De là, on apprend quelque chose d'assez extraordinaire.
Oui.
Si quelqu'un vient voir Dieu, il dit, Hachem, j'ai envie de me rattraper. J'ai envie. Eh bien, Hachem dit, bah, tu sais quoi, si tu as envie, je te laisse. Il n'y a pas de problème. On va faire fi du temps qui est passé. Même si le temps est passé, tu vas pouvoir te rattraper. Et ça, c'est extraordinaire. Hein.
Et alors, ensuite, donc, on continue dans le calendrier liturgique d'une certaine manière. On évoque des pains, du pain, la challah,
Ouais.
qui doit être offerte à Shavuot. C'est bien ça?
Alors, pas que à Shavuot, c'était
Pas
fait
que.
chaque semaine, mais spécifiquement à Shavuot, on a amené deux challot de plus, oui. C'est les challot, en fait, qui nous rappellent qu'à Pessah, à Shabbat, on mange les challot.
D'accord.
Mais, vous savez, le mot challah, c'est la partie interdite du pain. C'est quand on fait du pain, il y a une partie qu'on doit enlever, et qu'avant on donnait au temple, aujourd'hui, comme on n'a pas le temple, eh bien, on le brûle, parce que c'est interdit de la manger. C'est le rappel qu'on doit toujours partager ne serait-ce que 10% de ce qu'on a. Et comment s'appelle ce petit morceau interdit? Ça s'appelle challah. Alors comment ça se fait que les challahs de Shabbat, on les appelle par ce nom interdit, comme si toute la challah de Shabbat elle est interdite? C'est étonnant. Mais il faut savoir que c'est fatigant de prendre le temps avant Shabbat, vendredi, quelques heures avant Shabbat, il y a plein de choses à faire, de prendre le temps de faire des challahs. Et pourquoi les femmes prennent le temps de faire les challahs à ce moment-là? Pour pouvoir avoir la chance de faire la mitzvah de la challah, d'avoir la chance de pouvoir prélever ce morceau interdit. Parce que c'est une mitzvah tellement importante qu'elles sont prêtes à prendre le temps de le faire. Tout ça pour montrer à Dieu qu'il l'aime. Eh
D'accord.
bien, c'est pour cela que le mot challah a pris la place pour le pain de Shabbat.
Et alors, la dernière section, je crois, de la paracha, se termine sur quelque chose d'un petit peu particulier, en tout cas, qui n'est pas appliqué, me semble-t-il. C'est la possibilité de mettre à mort quelqu'un qui aurait fauté ou un blasphémateur, c'est ça?
Alors oui, en fait, il faut savoir que la peine de mort existe dans la Torah. Mmh. Elle peut être faite de quatre façons différentes. Donc il y a la pigeon, brûlée, l'épée et strangulation. Mais il faut savoir qu'il est marqué aussi que si un tribunal rabbinique condamne une fois en 70 ans une personne à mort, il est déjà appelé à un tribunal cruel. En fait, ça ne s'est jamais fait. Ça s'est fait une seule fois. C'était à ce moment-là, on était dans le désert, où quelqu'un dit « Ouais, bon, ce que ça veut dire que si on transgresse Shabbat, alors on va être tué. C'est pas... Ok, c'est Shabbat. On prend la voiture, c'est pas la mer à boire. Mmh. » Alors, il y a quelqu'un sur place qui a dit « Vous savez quoi, je vais vous montrer. » Il a coupé du bois devant tout le monde. Et les gens ont dit « Mais attends, on vient d'apprendre ces Shabbat. » Il dit « On s'en fout, Shabbat et tout. » Mais il faisait exprès, en fait, pour montrer aux gens. Et c'est là que qu'est-ce qui va se passer? Il va être tué devant tout le monde. Et là, les gens, ils vont trouver, waouh, ah ouais, ça rigole pas quand même. Ouais. Et c'est là que, en fin de compte, les gens, ils ont compris, quand on dit Shabbat, c'est Shabbat, ça rigole pas du tout. Mais sinon, après, ça ne s'est jamais fait.
D'accord, et bien, écoutez. Très bien, mais merci beaucoup pour cet éclairage sur la paracha de la semaine, la paracha est mort. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.
Merci à vous aussi, Shabbat Shalom. Bonne nouvelle, Chag Sameach.
Chag Sameach, on se retrouve la semaine prochaine.